les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.
Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia. Logo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras. En pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Baixo xugo aldrasadas, mulleres trafegadas, violadas. Dentro de todas as casas, mulleres e do mundo illadas. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras. En pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Rachemos as barreiras. En pé, en pé, en pé. En pé, en pé, en pé. Recoñecémonos todas mulleres, no sentir do noso xa. Oprimidas as mulleres, queremonos rebelar. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras. En pé, en pé, en pé. En pé, en pé, en pé.
Sera féministe sur Radio Galère. Alors aujourd'hui, c'est une émission spéciale puisque je suis revenue au studio avec deux invités du CEL, le centre évolutif Lilith. Donc c'est une association lesbienne féministe qui a été créée à Marseille en 1990 et aujourd'hui elle réunit une centaine d'adhérentes. Et il propose des activités conviviales, militantes et sportives tout au long de l'année, ainsi qu'une ligne d'écoute au 06 99 55 06 02. Mais je vais laisser mes deux invitées qui sont adhérentes de cette association vous en parler. Voilà, et je vais. Donc, Anita. Et Sophie. Donc, je vais laisser parler Anita et d'abord les remercier très fortement d'être venues pour cette émission.
Bonjour. Donc, je suis adhérente du CEL depuis 1994. Dans les années 90 et 2000, j'étais animatrice de cours d'anglais, de randonnée dans les calanques. J'étais aussi secrétaire du CA pendant des années. Aujourd'hui, je suis toujours animatrice de randonnée, de marche nordique, et soit co-trésorière ou co-présidente selon les années depuis la décision de fonctionner de manière collégiale. Et si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous joindre donc par téléphone au numéro que Nadia vous a indiqué. Je le répète, 06 99 55 06 02. Ou bien par mail celmrs@gmail.com. Et si vous voulez consulter notre site, vous avez celmrs.free.fr.
Voilà, alors Sophie, je te remercie aussi d'être venue, si tu veux bien te présenter.
Bonjour, merci Nadia de nous avoir invités à cette émission. Donc moi, je m'appelle Sophie, je suis donc adhérente aussi au CEL depuis 2013 par intermittence et surtout depuis 2019. Donc je suis coprésidente et j'ai rencontré donc le CEL à l'Euro Lesbo Pride en 2013 à Marseille. C'était l'année de la culture et c'était à Marseille que il y a eu donc cette grande manifestation pour réunir les fiertés lesbiennes et gays. Et donc j'étais adhérente à la coordination lesbienne en France et donc c'est là que j'ai rencontré en premier Isabelle et Anita. Et puis donc ensuite je suis restée 6 mois sur Marseille pour mon travail et participer aux activités. Et je fais partie actuellement de la commission demandeuse d'asile et commission des 30 ans. Voilà, je suis contente d'avoir rencontré cette association qui est à la fois militante, sportive et conviviale. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que je cherchais une association qui réunisse ces trois volets. Voilà.
Alors, tout à l'heure, vous allez détailler vos activités militantes, votre histoire, etc. Mais en premier, je voulais vous demander de rappeler quelles étaient vos valeurs.
Oui, les valeurs du CEL. Ben, nous sommes abolitionnistes, nous sommes laïcs, nous sommes universalistes. Nous défendons un féminisme qui refuse de négocier les libertés des femmes au nom des particularismes culturels, sociaux ou religieux. Par exemple, évidemment, nous luttons contre l'excision. La domination masculine, le patriarcat sévissent dans le monde entier. Il faut donc les affronter de manière universelle.
Voilà. Et ensuite, je voulais demander à Sophie, tu as parlé d'actions en soutien du droit d'asile. Et je trouve que ça très intéressant. Donc, j'aimerais bien que tu nous en parles un tout petit peu plus précisément de ce que vous faites.
Bah, en fait, le CEL a mis en place la commission demandeuse d'asile, réfugiée depuis quelques années. On reçoit donc des subventions pour ça. Et donc, on nous demande, des lesbiennes qui arrivent alors d'Algérie, du Maroc, du Kenya, récemment des Nigérianes qui sont arrivées. Il y a quelques jours, en fait, qui nous ont demandé de l'aide. Elles sont là depuis un an. Voilà, pour l'instant, elles ne parlent pas français. Elles sont logées vraiment à l'arrache, comme on peut dire. Donc, elles ont besoin d'un logement, elles ont besoin de papiers. Donc, nous, on va les aider à préparer l'entretien pour passer à l'OFPRA. Elles sont arrivées parce que Anna, donc de Urgence Homophobie, qui malheureusement on va un petit peu lâcher cette association, elle nous les a renvoyées. Et donc voilà, on est en contact avec une avocate. On a des contacts au niveau, on a des pistes, des contacts au niveau social pour éventuellement,
Pardon, petit problème technique. Non, ça marche. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je surveille. Le volume va bien.
Donc voilà, en fait, il y a une aide pour la préparation à l'entretien à l'OFPRA. Donc à part l'anglais, donc on va les entraîner avec toute une série de questions pour le passage à l'OFPRA, pour qu'elles obtiennent leurs papiers. Ensuite, donc il y a la question du logement où là on les booste un peu, puisqu'évidemment en arrivant d'un pays comme le Nigeria où elles ont subi des discriminations, des violences sexuelles, des violences physiques innombrables de la part de la famille, de la police, de l'institution. Donc elles sont parties il y a quelques années pour arriver en France. Leur voyage a été très pénible, c'est toujours un périple, même si elles ne prennent pas le bateau, comme on a un peu l'habitude de le voir par rapport à tous les médias, SOS Méditerranée, etc. Elles ne prennent pas forcément le bateau, mais elles subissent vraiment des grosses violences en raison de leur orientation sexuelle. Et nous, on est là justement pour les épauler, les soutenir, les rassurer, leur expliquer qu'en France, on a des droits. Et que nous, on peut les aider à avoir un statut officiel et les emmener sur le chemin pour une vie autonome et indépendante, quoi, en fait. Mmh. Voilà. Donc,
c'est un gros travail d'accompagnement, j'imagine.
Enfin, oui,
du coup, et on les invite aussi aux activités du CEL pour qu'elles rencontrent d'autres lesbiennes. Il y a un effort de sociabilisation pour elles, pour pas qu'elles se sentent aussi isolées.
Voilà, et dans quelques cas, enfin, pas la majorité des cas, mais peut-être la moitié, elles ont un ou des enfants. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important à gérer. Alors bien sûr, elles sont déjà en contact avec des assistantes sociales, etc., avec la plateforme Réfugiés. Mais voilà, et à chaque fois, ce sont des super belles rencontres, puisque c'est une culture, c'est une nouvelle culture. On apprend à c'est une ouverture sur aussi les autres représentations, d'autres représentations du lesbianisme, en fait, dans d'autres pays. Et c'est aussi très enrichissant parce que les lesbiennes, c'est pas simplement en France, à Marseille, c'est partout sur la planète.
Ouais, je trouve que c'est très très intéressant cette ouverture au monde, quoi, cette ouverture à l'universalité du monde lesbien. Quoi.
Bah, d'autant plus qu'elles ont nous on est là aussi parce que elles ont des spécificités qui ne sont pas traitées par toutes les associations de réfugiés qu'on peut connaître, puisque en plus d'être des femmes, donc d'être déjà discriminées, elles sont lesbiennes. Mmh. Et donc elles sont aussi discriminées au sein du voyage parmi les réfugiés.
En tant que femmes et en tant que lesbiennes.
Il y en a qui ont eu affaire à Daesh, elles ont dû se prostituer, tout ça. Mmh. Donc c'est vraiment... c'est vraiment une spécificité. En plus d'être une femme, elles sont lesbiennes, donc elles ont des relations avec des femmes, et ça c'est impossible de concevoir.
Souvent
ça.
Dans leur pays d'origine, j'imagine qu'elles étaient persécutées par rapport à cette orientation.
Oui, elles subissent de la persécution, etc.
Et même en France, au sein de leur communauté, elles sont harcelées souvent. Certaines qu'on a pu suivre jusqu'à présent et qui étaient hébergées en foyer, en CADA, en centre d'accueil pour les demandeuses d'asile, elles pouvaient, si elles retrouvaient des gens ou des hommes du même pays qu'elles, et si elles étaient connues comme lesbiennes, bon, elles étaient harcelées aussi, même en France. Quoi.
Ah oui, par les hommes de leur communauté.
Oui.
Et qu'est-ce qu'il en est en France de la protection de ces femmes lesbiennes, justement? Est-ce que vous avez, enfin, le droit d'asile, comment ça marche par rapport à ces femmes-là? Est-ce que ça...
Il y a une liste de pays...
soi-disant sûrs.
Soi-disant sûrs, et une liste de pays qui ne sont pas sûrs. Mm-hmm. Et donc, voilà, ils se basent là-dessus pour leur...
Okay, il faut qu'elles viennent d'un pays soi-disant non sûr pour que peut-être elles puissent obtenir le droit d'asile, mais j'imagine que ça doit être très 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 difficile à obtenir.
Et il y a aussi autre chose, c'est qu'il faut qu'elles convainquent les juges de l'OFPRA qu'elles sont lesbiennes.
Ah. Ah bon.
Oui.
Waouh. Wow.
Oui. Comme tu dis.
Wow. Ça paraît pas évident. Ouais, et du coup, comment vous les aidez, enfin, comment vous faites, enfin, je sais pas. C'est,
Ben, on leur donne une carte du CEL, on leur fait une attestation si on a été suffisamment en contact avec elles, si elles ont participé à nos activités. Et en général, on ne met pas en doute le fait qu'elles sont lesbiennes. Mais c'est vrai que... C'est impossible à... Je veux dire, c'est, à la limite, c'est impossible à
prouver.
À prouver, quoi.
Bah oui.
La difficulté, c'est qu'elles viennent de pays donc très discriminés, sont discriminées en raison de leur orientation sexuelle. Donc elles atterrissent en France, enfin elles arrivent en France. Certaines arrivent en avion, d'autres en bateau, d'autres en train, à pied, etc. Et là, il faut qu'elles prouvent maintenant qu'elles sont lesbiennes. Donc dans la tête, c'est compliqué, compliqué à concevoir.
Oui, parce que jusqu'à présent, elles se cachaient. Il fallait surtout pas qu'elles le disent.
Oui.
Voilà, dans leur pays. Ouais. Maintenant, On leur demande le contraire.
De prouver, quelque chose pour lequel, en fait, elles ont été persécutées pendant ces
Fois. Donc sans rentrer dans les détails, au niveau psychologique, c'est assez quand même très délicat pour elles, qui ont en plus subi la plupart du temps des violences sexuelles. Et donc, elles sont dans un psychotrauma et donc assez désaxées, en fait. Voilà. Mais bon, on est là pour...
Donc c'est ce que j'allais dire. Voilà. Du coup, c'est chouette parce que vous êtes vraiment un soutien pour elle, en fait.
Oui, puis on n'est pas...
J'imagine que c'est très important pour elle.
Oui, puis dans la commission réfugiée, on est quelques-unes... Alors, on est 4 ou 5 sur Marseille, et puis on a aussi un relais à Paris. Mmh. Donc, des adhérentes du CEL qui habitent à Paris, mais qui font aussi partie d'un collectif sur Paris qui s'occupe aussi des lesbiennes réfugiées et qui les accueille à Paris pour leur entretien à l'OFPRA. Donc, il y a toujours un relais, en fait.
Ouais, parce que en fait, effectivement, vous allez en le détailler un peu plus après, mais le CEL, c'est une association nationale, en fait, bien sûr. Voilà.
Disons que les lesbiennes qui veulent adhérer au CEL, ou les femmes qui veulent adhérer au CEL, parce qu'on ne leur demande pas non plus une carte de lesbienne, elles peuvent venir de toute la région PACA, et effectivement, on a quelques adhérentes à Paris et dans d'autres régions. Mais enfin, d'accord. Elle est quand même principalement marseillaise et PACA.
Ah, ok. Alors voilà, sinon, vous deviez parler aussi des statuts, je crois,
oui.
De l'association.
Oui. C'est une association non mixte qui est ouverte aux femmes nées de sexe biologique féminin. Et nous avons changé les statuts, nous avons rajouté ça dans les statuts en octobre 2019.
Mm-hmm. Donc, vous allez expliquer, enfin, on expliquera plus en détail le changement de statut, pourquoi vous avez été amené à changer les statuts. Mais auparavant, on va faire une petite pause musicale. Proposé par Sophie. Donc, si tu veux bien juste... tu m'as proposé 3 chansons. Est-ce que tu peux nous parler de ton choix musical? Parce que, voilà,
alors, en fait, j'ai choisi System D. C'est un groupe de copines sur Paris de musiciennes chanteuses lesbiennes et que j'avais rencontrées sur un lieu dans les Landes, une maison de femmes. Et que je les adore. Il y a l'accordéon, c'est très joyeux, c'est le ukulélé, etc. System D.
D'accord. Alors, on va vous faire écouter Kit ou Double. Voilà.
Gonna be caught.
Donc on reprend notre émission sur le centre évolutif Lilith. Alors on en était au changement de statut et voilà, vous deviez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez décidé de changer vos statuts. Donc je vous laisse l'expliquer.
Disons qu'on a voulu préciser parce que dans beaucoup d'associations à l'heure actuelle, des associations lesbiennes, il y a des personnes, disons des transactivistes, surtout masculinistes, qui essayent d'infiltrer les associations lesbiennes. Donc on a voulu essayer de protéger l'association. En fait, le transactivisme, c'est une idéologie selon laquelle il suffit de s'autodéterminer femme pour en être une et vouloir être considérée comme telle. Et dans des lieux réservés aux femmes, par exemple les toilettes ou les prisons. Il y a des exemples d'ailleurs de trans, je ne sais pas comment il faut les appeler.
En fait, c'est une partie de personnes trans, en fait.
Voilà, personne trans qui, en fait, est un homme non opéré. Et comme il se prétend femme, on le considère comme une femme. Il est dans une prison de femmes et il viole des femmes. Donc, on a voulu essayer de protéger notre association. On considère que c'est une idéologie néolibérale et nous nous opposons... Surtout aux méthodes violentes de ces transactivistes qui, aussi bien dans les manifestations, peuvent attaquer les lesbiennes ou peuvent attaquer aussi les survivantes de la prostitution. On voudrait aussi dénoncer la pression qui est mise, ça c'est beaucoup d'exemples au Royaume-Uni, pour faire transitionner des ados. Souvent des jeunes filles. Il y a maintenant, je pense que Sophie va en parler davantage, sur les campagnes pour imposer des bloqueurs de puberté. Et maintenant, il y a beaucoup de jeunes filles qui regrettent. Donc, on est contre les transactivistes. On aimerait bien que... En fait, pourquoi ? Parce que s'il n'y a plus de femmes, si on peut dire qu'on est femme juste parce qu'on le décide, ça invisibilise les femmes. Et dans ce cas, il n'y a plus nécessité de lutter pour défendre les droits des femmes. Mm-hmm. Comment une société peut-elle défendre les droits des femmes et œuvrer à l'égalité si le mot femme change de définition ?
Donc je peux peut-être, si tu es d'accord, ajouter un petit complément à tout ça. Mais voilà, parce que c'est pas évident d'expliquer de quoi il s'agit. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent complètement le problème des transactivistes, puisque moi-même, j'ignorais avant, je ne me sentais pas forcément concernée. Donc, juste préciser que ce sont une partie extrémiste des personnes trans. La plupart des personnes trans ne se revendiquent pas transactivistes, hein, c'est bien ça. Et donc, une partie extrême des personnes trans, par contre, prône, comme tu l'as dit, cette idéologie qui, en fait, selon laquelle, tu l'as dit, il suffit de s'autodéterminer femme pour en être une et vouloir l'être. Donc, du coup, pourquoi déjà, comment dire, tu l'as dit, les transactivistes posent problème aux lesbiennes, mais en fait, ils posent problème à tout le monde, en fait, à toutes les femmes, puisque jusqu'à aux féministes, mais oui, en fait, ça pose problème à tout le monde, hommes et femmes, de revenir sur enfin, la définition d'un homme ou d'une femme, en fait, ça concerne tout le monde. Et la plupart des féministes, s'en inquiétaient pas, les laissaient vivre, se disaient, bah voilà, chaque personne peut, enfin, une personne trans a le droit d'être trans. Si elle est discriminée parce qu'elle est trans, ben, bien sûr qu'on est contre, voilà, comme on est contre la lesbophobie, les personnes trans, voilà, ont le droit d'être protégées et de ne pas être discriminées. Et c'est tout. Mais le problème, en fait, ce qui nous pose problème, c'est que les transactivistes sont effectivement, comme tu l'as dit, très violents et agressifs. Et voilà. Et en fait, ils sont très haineux et ils attaquent. Ils sont venus à attaquer des féministes qui n'avaient rien demandé et qui ne s'en occupaient pas de cette question. Donc, par exemple, moi, je vais parler de Marguerite Stern, qui a fondé qui a créé les collages féministes qu'on a pu voir dans la France entière, en fait, pour dénoncer les féminicides. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été obligée de s'exprimer sur ces débats du transactivisme, en fait. Ça ne l'intéressait pas plus que ça, mais ce qui s'est passé, c'est que ces collages qui concernaient les violences faites aux femmes les plus extrêmes, puisque les féminicides, eh bien, ont été détournés par les transactivistes. Et ces collages se sont transformés en des messages de haine contre les femmes, les féministes qui n'adhèrent pas à l'idéologie des transactivistes, selon laquelle il suffit de se déclarer femme pour devenir une femme. Voilà. Et du coup, il y a eu des messages haineux où il y a marqué « mort aux TERF », c'est-à-dire les féministes radicales. Ils ont inventé, en fait, une insulte. Hein, vous êtes d'accord? La transphobie, voilà. C'est une insulte à des personnes qui n'ont rien demandé de haine, en fait, tout simplement, parce que, voilà. Et du coup, dans les messages des collages, c'était plus pour dénoncer des féminicides, c'était pour dire « mettez au bûcher les féministes radicales qui sont transphobes ». Voilà, et cette accusation de transphobie est faite pour toute personne critique de leur idéologie ou toute personne qui défendrait les droits des femmes sur la base du sexe biologique. Voilà, donc je vais revenir, je vais citer en fait là pour tous ceux qui connaissent pas bien le sujet, ce qui était mon cas en fait, j'avoue, il n'y a pas si longtemps non plus. Avant effectivement que je sois au courant justement de vos problèmes, c'est vous qui m'avez alerté aussi sur ces problèmes-là et des agressions, etc. Donc voilà, je vais vous lire un petit extrait d'une femme féministe qui s'appelle Christina Harrison, qui explique pourquoi l'auto-identification de genre est problématique pour tout le monde. Donc voilà ce qu'elle dit. « L'auto-identification de genre a des conséquences tangibles sur les espaces réservés aux femmes, ça tu l'as dit, et sur les stratégies qu'elles mettent en œuvre pour combattre la misogynie en définissant leur propre agenda. » De façon plus profonde, il s'agit d'une atteinte à leur droit à se définir elles-mêmes. Nombreuses sont les femmes qui refusent d'être une nouvelle fois définies selon les critères qui les ont justement entravées dans leur accomplissement d'elles-mêmes depuis la naissance. La passivité, l'abnégation et le sacrifice pour les autres, en particulier les hommes. La douceur, la modestie, le fait d'être évaluées selon leur apparence plutôt que leurs actions. Ces normes pèsent comme un fardeau sur leur vie. Nous sommes nombreuses à insister sur le fait que les femmes sont avant tout un groupe défini par un sexe biologique et une socialisation spécifique. Le sexe est une réalité. C'est même ce qui est au fondement de l'espèce humaine. Bon, voilà, ben là, moi, je trouve que je suis d'accord avec ça. Le sexe est une réalité. Nier cette réalité, il me semble que...
Voilà, donc à la fin, elle conclut, je vais pas vous lire tout l'article, mais elle dit « Il nous faut prendre en compte la présence de deux groupes discriminés. Ainsi, la protection des espaces de non-mixité pour les femmes, avec l'affirmation du droit à braver les stéréotypes de genre, doit cohabiter avec l'amélioration des parcours de soins et d'accompagnement des personnes trans, sans que leurs droits n'empiètent sur ceux des femmes. » Voilà, donc je trouve que ça éclaire un petit peu ce qui se passe par rapport aux transactivistes qui finalement prétendent que voilà, leurs droits sont les seuls qui comptent en fait et qui finalement, comme tu l'as dit, invisibilisent les femmes, puisque voilà, il y a du coup, si c'est vrai que c'est si on sait plus du tout ce que c'est qu'une femme, ou enfin voilà, du coup, sont les droits des femmes.
Ça
voilà.
Va loin, hein, parce qu'on ne peut même plus critiquer et militer contre l'excision, par exemple.
Ah oui, puisque, bah oui, mais voilà, on peut plus rien faire en fait. Voilà. Enfin, je veux dire, voilà, c'est vrai.
On peut plus militer pour les droits des femmes.
Mm-hmm. Et oui. Du coup, tu voulais dire quelque chose, Sophie, parce que moi, c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire, mais
par rapport,
ouais,
pour voilà. Revenir un petit peu au sel, aux lesbiennes,
oui.
En fait.
Oui.
Moi, je pourrais vous lire un petit extrait donc d'une chronique, d'une tribune, pardon,
oui.
Qui a été écrite par plusieurs. Et c'est un extrait, en fait, et donc où on parle des lesbiennes. Donc, les lesbiennes sont invisibles. Certains mouvements se prétendant féministes expliquent aux adolescentes qu'une femme, et donc une lesbienne, est une personne qui dit l'être. Dire d'une catégorie de la population qu'elle englobe n'importe qui prétendant en faire partie, c'est dire de cette catégorie qu'elle n'existe pas. Comment Keira Bale, cette jeune militante lesbienne anglaise de 23 ans qui regrette aujourd'hui d'avoir pris des hormones et des bloqueurs de puberté à l'âge de 16 ans, pouvait-elle savoir qu'elle était lesbienne ? À l'époque, la lesbienne, entre guillemets, britannique la plus médiatisée était Alex Drummond, une personne transféminine, donc née homme, non opérée, selon ses dires, non rasée, et qui, à l'époque, co-dirigeait la fédération LGBT britannique Stonewall. Quand des lesbiennes veulent organiser des activités entre elles, elles subissent des pressions de la part de groupes s'identifiant féministes queer pour intégrer dans leurs activités des personnes transféminines attirées exclusivement par des femmes. Nous constatons que trop souvent, ces personnes essaient de contrôler notre parole, nos pratiques et nos visibilités. Nous voulons garder nos espaces, nos activités sportives et festives en non-mixité. Nous voulons, par exemple, pouvoir organiser des discussions sur notre sexualité lesbienne sans la présence de personnes qui nous parlent de leur pénis. 85% des personnes transféminines ne souhaitent pas s'opérer et nous ne les jugeons pas pour cela. Simplement, ce genre de discussion touche à l'intimité. Les gays ont des espaces intimes à eux. Les personnes trans ont des associations qui leur sont réservées. Nous voulons, pouvons faire de même sans que certains groupes en non-mixité choisissent en mexis cherchent violemment à nous en empêcher au nom de l'inclusion. Certaines militantes expliquent aussi, parfois en notre présence, à des jeunes femmes de moins de 18 ans, que la testostérone artificielle n'est pas dangereuse et que ses effets sont réversibles tant qu'elles n'ont pas été opérées. Ce n'est pas le cas. Certains effets sont irréversibles. Et pour terminer, l'injonction à la transition d'adolescente lesbienne et la remise en cause de notre sexualité est purement et simplement de la lesbophobie. Nous alertons les féministes sur les dangers du transactivisme extrême et leur demandons d'œuvrer à la visibilité lesbienne. La visibilité lesbienne est la preuve donnée aux petites filles et aux adolescentes, y compris hétérosexuelles, qu'il est possible d'être une femme sans se conformer aux stéréotypes de genre. Plus nous tarderons à réagir, plus nombreuses seront les jeunes femmes affectées, plus la transition sera avancée et plus les dommages physiques seront lourds et irréversibles. J'aimerais... Donc, merci aux écrivaines de cette tribune. J'aimerais dire que... En fait, au CEL, on est pour la visibilité donc lesbienne, évidemment. Anita en reparlera plus, mais on a participé à beaucoup de manifestations avec une belle banderole qui mettait en avant la visibilité lesbienne. Et c'est vrai que pour les jeunes filles qui n'ont pas d'image de représentation lesbienne dans les médias ou proche d'elle dans la famille. C'est extrêmement compliqué de savoir déjà qu'elles sont des filles et qu'elles vont devenir des femmes. Alors, avec tout ce qui est véhiculé par la mode, la beauté, les stéréotypes de beauté, de grosseur ou de minceur, etc., de maquillage, etc., c'est extrêmement dur pour une adolescente. Et je pense que beaucoup d'entre nous, au CEL, sont passés un petit peu par là. C'est extrêmement dur de s'identifier à une figure, en fait. Et la visibilité, c'est fait pour ça. C'est fait pour que nous, on ait une existence, on ait une représentation. Et que je pense à cette journaliste sur Arte, là, qui vient d'avoir des jumeaux, qui est lesbienne, qui fait le 19 à 19h45, qui est journaliste, et qui n'a pas peur d'être lesbienne, et qui milite en faveur des lesbiennes, etc. Et donc, sur cette chaîne-là, elle est représentée. Et voilà. Mais bon, il est vrai qu'en France, des chaînes françaises ne font pas trop... la même chose.
Ouais. Voilà. Bon, eh bien, oui, ben, cette tribune, bon, moi, je l'ai co-signée aussi. J'ai été touchée par son message. Et aussi, en fait, cette tribune, donc, si vous allez la rechercher sur Internet, je pense que vous la trouverez facilement. C'est un soutien aussi à J.K. Rowling, l'autrice de Harry Potter. En fait, qui a été, elle aussi, mise en danger par rapport à ce qu'elle avait dit sur ce transactivisme. Et pourtant, si on regarde ses paroles, c'était des paroles tout à fait raisonnables, puisqu'elle demandait à ce que les femmes trans soient en sécurité. Elles ont besoin de protection, elles la méritent. Il y a beaucoup de femmes trans prostituées qui sont particulièrement exposées aux risques, etc. Mais elle disait simplement que c'est inutile d'appeler les gens qui ont des règles autrement que de dire que ce sont des femmes. Et pour cela, elle a été victime d'insultes, de harcèlement sur les réseaux sociaux. Du coup, cette tribune, en fait, donc, dont tu as lu un extrait, a été écrite aussi pour la soutenir. Maintenant, elle est écrite aussi pour soutenir Marguerite Stern, donc, qui elle aussi... Ah oui, je ne l'ai pas dit ça par contre, j'ai oublié de le dire, mais que Marguerite Stern, qui a été accusée de transphobie sur les réseaux sociaux, a été attaquée aussi par une féministe très médiatisée. Bon, je ne préfère pas dire son nom pour lui faire de la publicité, et aussi parce qu'on va porter plainte contre elle. Je pense qu'il faut absolument porter plainte, puisque une féministe médiatisée a appelé à brûler Marguerite Stern. Donc en fait, ce sont des messages tout à fait patriarcaux, comme brûler les sorcières. Mais ce qui est très éprouvant et très triste, c'est de voir que ce sont des personnes qui se disent féministes qui appellent à brûler d'autres femmes féministes. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi sur cette tribune, c'est qu'elle a été écrite aussi pour alerter par rapport à l'injonction qui est faite à la transition. Donc cette tribune qui parle du fait que en ce moment, il y a eu des injonctions très fortes pour que les jeunes adolescentes transitionnent, et il y a eu des chiffres, une augmentation en 10 ans de 45% au Royaume-Uni, enfin je sais plus, c'est marqué au début de la tribune. Et qu'on utilise aussi des bloqueurs de puberté. Voilà. Donc cette tribune alerte pour dire aussi qu'il ne faut pas utiliser des bloqueurs de puberté parce qu'ils sont dangereux pour les adolescents qui utilisent... C'est bon, mais enfin, en tout cas, c'est un sujet assez compliqué aussi, donc je pense que ça donnerait lieu encore à une autre émission. Voilà.
Donc cette tribune, elle a été publiée sur Figaro Vox.
Voilà, si vous voulez la retrouver pour l'instant. Et puis il y a une deuxième tribune aussi en ligne que vous pouvez trouver, qui résume un peu la première et qui s'intitule 304 tordus soutiennent J.K. Rowling, et qui demande de ne pas encourager les bloqueurs de puberté parce que... On montre qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont fait cette transition et qui ensuite ont des problèmes toute leur vie de santé parce qu'ils ont bloqué la puberté, parce que voilà, et qu'en fait c'est assez catastrophique, et après ils ne peuvent plus détransitionner. Voilà.
Ce qui est inquiétant, ce que je trouve inquiétant aussi, c'est que sous prétexte de libérer les jeunes ou sous prétexte que ce mouvement queer est ouvert, subversif, on fait ce qu'on veut, on change de sexe, on change de genre. En fait, ce mouvement bloque le développement des adolescents, puisque n'importe quel individu qui est passé par l'adolescence, par définition, n'était pas construit à l'adolescence, et il lui a fallu à lui ou à elle plusieurs années pour découvrir, pour se découvrir, donc sans transformer son corps, mais en s'adaptant, enfin en s'adaptant, en trouvant en tout cas des voies pour se chercher, etc. Et ce qui est dangereux, c'est que là, ça bloque le développement de l'individu au niveau physiologique, mais aussi au niveau, au niveau psychologique et même spirituel, on va dire. Et donc, moi, je trouve que c'est très inquiétant. Et c'est d'autant plus inquiétant que c'est encore les labos pharmaceutiques
qui prennent. C'est ça qui est dénoncé aussi dans la tribune.
De plus en plus de pouvoir. C'est ce capitalisme, néolibéralisme galopant qui
encourage,
qui empiète en fait sur la santé des jeunes, des adolescents et des adolescentes qui ne se trouvent pas, qui se cherchent en fait, relayés par l'institution, par les États et par le corps médical dans certains pays.
Voilà.
Et ça, c'est très inquiétant.
Ouais. Mais vous en saurez plus donc si vous lisez cette tribune. Moi, je ne connaissais pas bien le sujet, mais c'est vrai que, en plus, ça renforce absolument les stéréotypes, parce que visiblement, dans les pays où on a plus effectué des transitions, poussé à la transition, un enfant est dit dysphorique tout simplement, par exemple, s'il a un garçon qui joue à la poupée, hop, voilà. Donc en fait, ça renforce les stéréotypes. Pourquoi un garçon ne pourrait pas jouer à la poupée, quoi? Mais voilà, un garçon qui jouerait trop à la poupée, ça va pas. Alors on va dire en fait, laissons-le devenir une fille. Bah, pourquoi? Ou alors une petite fille qui dit en permanence je voudrais être un garçon pour avoir plus de liberté, moi j'appellerais ça une petite fille féministe. On va dire mais non, c'est une petite fille dysphorique qui en fait veut être un garçon. Non, ça c'est des stéréotypes patriarcaux, il me semble, que dire ça.
Absolument.
Donc en fait, tout ça c'est très très inquiétant. Mais bon, c'est un sujet à creuser. Et on va arrêter là sur ce sujet, puisqu'on va faire d'abord une petite pause musicale avant de revenir au thème du centre évolutif Lilith. Voilà, donc petite pause musicale avec toujours le groupe dont tu rappelles le nom.
System D, on a envie de vous les faire découvrir.
Voilà, et donc on va vous faire écouter Full Sweet Indigo. I'm gonna be caught by the tricky, by the fire and no control. I'm gonna be air, wild and rocky. Take a chance and cross the sea. Face to face, I'm for right. Dangerous to reach out. Just to reach her, and just to catch her, and just to kiss her all the night, and just to catch her.
Sur le centre évolutif Lilith. Alors notre troisième partie d'émission concerne un peu l'histoire. Vous allez nous raconter ce que je trouve très intéressant, votre histoire de militantisme féministe que je ne connaissais pas bien. Donc voilà, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de tout ça.
Comme je le disais au début, le SAL a été créé en 1990, donc ça fait 30 ans que nous militons pour les droits des femmes et des lesbiennes et contre la lesbophobie. Bon, le mot lesbophobie est plus récent parce qu'il a fallu lutter pendant pas mal d'années pour qu'il soit finalement mis dans le dictionnaire. La lesbophobie, c'est une double discrimination, sexiste et homophobe. Nous considérons que l'homophobie, par exemple, les journées du 17 mai, qui sont des journées internationales contre l'homophobie et la transphobie, et en général, nous râlons parce qu'il n'y a pas la lesbophobie et que nous considérons que l'homophobie n'englobe pas la lesbophobie, puisque la lesbophobie, comme je le disais, est une double discrimination à la fois sexiste et homophobe. Nous militons contre l'exploitation du corps des femmes, en particulier la prostitution et la GPA. La GPA, c'est la gestion pour autrui, la gestation pour autrui. Ben, je l'explique après. En fait, le SAL adhère à la SIAMS, c'est la coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution. Hein. La GPA, c'est ça, c'est la maternité de substitution. C'est une nouvelle coalition internationale qui s'est créée il y a quelques années. Cette exploitation des femmes est vraiment liée à leur biologie. Hein, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Comment lutter contre la GPA s'il suffit de dire qu'on est femme, ça ne marchera pas. Nous militons avec les associations féministes. Nous sommes présentes le 8 mars, le 25 novembre. Les lesbiennes de tout temps ont été et sont très militantes dans les mouvements féministes, y compris à l'époque où nous militions pour la contraception et l'IVG, et aussi la parité. En l'an 2000, le SAL a participé activement à la première marche mondiale des femmes, qui a succédé à la marche de 1995 au Québec pour du pain et des roses. Le SAL était présent lors de la création du collectif 13 droits des femmes en 1995 aussi, et depuis l'association est adhérente. Le SAL a participé à la création de la coordination lesbienne nationale en 1996, dont il a assuré la première présidence. La première rencontre de la CLN, donc la Coordination lesbienne nationale, a été organisée par les associations du Sud, dont le SAL. La Coordination lesbienne nationale est devenue ensuite la Coordination lesbienne en France. Le SAL a organisé un grand débat en mars 1994 sur 20 ans de féminisme. En 1998, Nous avons invité Hélène Michel qui a participé à la 4e conférence mondiale des femmes à Pékin. En 1996, le CEL a aidé à la création des 3G, le bar associatif lesbien féministe. Le 20 mars 1998, Nicole et la CLN ont été reçues par Geneviève Fraisse, déléguée aux droits des femmes. Le CEL a participé aussi avec Climacus à de nombreuses actions pour arriver au PAX. Le CEL a participé activement à la création du rond-point Louise Michel, inauguré le 8 mars 1999 en présence du député Guy Hermier.
Donc moi je
la liste est longue. La liste est longue. Bravo. Et il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait citer et donner.
C'est super. Et vous avez, enfin, moi je suis impressionnée par tout ça, quoi. Et vous avez du coup au CEL, vous gardez un peu trace de toutes vos luttes, vos actions comme ça, l'historique, ouais, c'est important, je trouve.
Il y a des archives, si tu as envie de te plonger dans les archives pour décortiquer tout ça.
D'accord. Ouais, je suis impressionnée. Et pourquoi est-ce que tu peux nous expliquer ce nom Centre évolutif Lilith?
Évolutif, puisque depuis 30 ans, effectivement, il y a eu beaucoup d'évolutions. L'association principalement conviviale, au départ, elle est devenue une association lesbienne féministe militante. Et le CEL est à l'initiative de la première Pride, qui à l'époque s'appelait encore Gay Pride, en 1994. Et le CEL a participé à de nombreuses prides, surtout quand les conditions de travail avec les gays le permettaient, ce qui n'a pas toujours été le cas. L'équipe du journal a fait paraître 28 numéros d'Esprit de CEL dans les années 2000. Le CEL a proposé des visites du matrimoine avant même que ce mot ne devienne à la mode.
Ah, voilà, ça je l'ignorais, donc bravo aussi pour ça, parce que le matrimoine, c'est vraiment important.
Et en 2002, nous étions dans la rue pour manifester contre la présence de Le Pen au deuxième tour des présidentielles, avec nos affiches « Lesbiennes contre le Front National ». Ça, c'est le côté évolutif. Oui. Alors, pourquoi Lilith?
Ah oui. C'est vrai, pourquoi Lilith, alors?
Dans la Bible, Lilith est la première femme. Mais face à un Adam qui voulait la servir, elle s'est rebellée et a pris son autonomie. Très vite, elle disparut des textes ou fut diabolisée par les religions. Ne subsistait alors plus qu'Ève, mieux adaptée à la société patriarcale dominante. Donc pour nous et les féministes, Lilith est la première féministe. Et il y a tout l'aspect convivial aussi, mais je laisse la parole à Sophie.
Oui, alors donc on organise des week-ends. On organise des soirées dansantes. Par exemple, dans les années 2000, il y a eu 400 à 500 lesbiennes qui se sont réunies c'était au
Château des Fleurs.
Voilà, au Château des Fleurs. Et là, c'était une grosse, grosse, grosse organisation. On en entend encore parler. Moi-même, qui suis récente dans l'association, j'en entends parler très souvent. Et comme quoi, c'était vraiment... parce qu'accueillir 400 à 500 personnes, c'est vraiment une grosse logistique au niveau de la musique, etc., de la nourriture.
C'était quand, ça, tu as dit?
Dans les années 2000. Mm-hmm. Alors, sinon, en juillet 2013, le CEL a organisé l'Euro Lesbo Pride, dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qui m'a fait le découvrir, d'ailleurs. C'était à la Friche Belle de Mai. Donc, c'est pas loin d'ici, en fait, pas loin de... Et donc, le village, on a construit un village lesbien pendant 10 jours avec des stands, des conférences, des spectacles, des diffusions de vidéos, des moments conviviaux. Il y avait une buvette. Enfin bon, c'était très sympa. Et puis, une belle marche de nuit avec notre banderole lesbienne en marche. Bon, malheureusement, maintenant, nous ne pouvons plus l'utiliser depuis que Macron et LRM nous ont piqué notre slogan.
C'est vrai.
Mais c'est nous qui l'avons inventé en premier, hein, faut bien le rappeler. Et puis, nous avons publié les actes de l'Euro Lesbo Pride qui regroupent les textes des conférences. En mai 2014, le CEL a organisé la rencontre de la coordination lesbienne en France à la Roque d'Anthéron. C'était un moment très sympa, convivial et politique et sportif. Voilà, donc récemment, en fait, il y a l'activité billard qui s'est mise en place.
Qui a repris parce qu'elle existait à une époque.
Voilà, elle a repris. Donc on fait des randos le mardi. Il y a de la marche aquatique, de la marche nordique. Enfin, vous avez tout sur le programme du CELMRS. CELMRS.free.fr. Voilà. Que peut-on dire de plus ?
Je ne sais pas, l'avenir du CEL.
Tu voulais inviter les lesbiennes de Marseille et de la région à nous rejoindre.
Voilà.
Voilà, et puis, bon, alors cette année, c'est les 30 ans du CEL. Ça fait 30 ans que le CEL a été créé. Mais celles qui ont maintenant, aujourd'hui, en 2020, 30 ans, sont les bienvenues. Parce qu'on a envie de transmettre, nos valeurs politiques, notre culture. On a envie d'échanger, de discuter, de faire des nouvelles rencontres, de continuer à militer dans les groupes féministes, dans l'émission de Nadia.
De venir à l'émission.
Ouais. De venir à l'émission de Nadia. Et puis, c'est ouais. Je pense que, voilà, au CEL, c'est assez intergénérationnel, puisque ça va de 23 à 80, je ne sais pas combien. Et donc, toutes les adhérentes et toutes les femmes sont les bienvenues. Il suffit d'envoyer un petit mail ou de prendre contact au 06 99... 55 06 02 et on vous rappellera ou on vous écrira, voilà, suivant vos envies, vos besoins, etc.
Tu peux rappeler le pique-nique peut-être ?
Si vous voulez nous rencontrer en direct, live, à l'occasion d'un pique-nique aux 7 portes de Jérusalem, donc espace Borély, ça sera à 19h30 ce dimanche après les élections. Et bien sûr, on appelle à voter Printemps Marseillais. Vous l'aurez deviné. Ah, désolé, c'était pas dans les créneaux de l'émission.
Ouais. Bon. Voilà, c'est pas... ouais. Bon. Alors, en tout cas, on arrive au terme de l'émission. Il va falloir qu'on vous laisse. Je vous remercie parce que là, il y a une deuxième émission après article 25. Alors, je vous remercie encore une fois d'être venu. Et voilà. Et j'espère que si vous avez envie de revenir une prochaine fois, il n'y a pas de problème. Cette antenne féministe vous est ouverte.
Merci, Nadia.
Merci à toi, Nadia.
Voilà. Alors, mon petit générique d'hymne des femmes pour terminer en beauté. Et voilà.
Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.